Rebonjour David Torchella.
Rebonjour Gilles, bonjour à tous.
Nathalie Delattre, ministre déléguée chargée du tourisme, a effectué ce week-end un déplacement dans les Hautes-Pyrénées. Au cœur de sa visite, elle s'est rendue à Lourdes ce samedi.
Oui, effectivement, elle est venue au sanctuaire de Lourdes. Elle a démarré en fait cette visite de Lourdes et des Hautes-Pyrénées par le sanctuaire. Je le disais tout à l'heure, 3 heures d'échanges constructifs autour des enjeux pour le sanctuaire. On le sait, le sanctuaire est évidemment un lieu qui est fréquenté. 3,2 millions de pèlerins se rendent chaque année. Ils viennent de plus de 50 pays. Mais pour autant, la spécificité du sanctuaire, eh bien, c'est l'accueil des personnes malades qui nous viennent de partout. Et ça, c'est une vraie spécificité du tourisme.
Elle a notamment évoqué l'impact de Lourdes dans le tourisme du département des Hautes-Pyrénées.
Oui, c'est dire effectivement une ville qui a 13 000 habitants et qui a son propre aéroport à moins de 10 minutes, sa gare TGV. Ben voilà, c'est dire que c'est important en tout cas, et que le sanctuaire est un peu un poumon économique à la fois pour les Hautes-Pyrénées, mais également pour la région Occitanie. C'est important, elle est venue le constater, elle n'est pas venue seule. C'était l'occasion aussi pour le sanctuaire de renouer ses liens du travail au quotidien avec les élus, mais étaient présents évidemment le maire de Lourdes, le préfet des Hautes-Pyrénées, mais aussi les députés, les sénateurs, les représentants du conseil régional, départemental. Donc tous les acteurs en tout cas étaient présents. Un beau moment d'échange et de partage, et puis notamment l'occasion de sensibiliser cet accueil l'accueil de la vulnérabilité, voilà, et vraiment dans la dignité. Vous savez, 40 000 pèlerins malades sont recensés à Lourdes, en tout cas viennent et sont hébergés dans les structures médicalisées du sanctuaire. C'est important, et aussi ça pose un certain nombre d'enjeux d'investissement pour l'avenir. Je pense notamment au pont Sainte-Bernadette. Pour ceux qui connaissent Lourdes, c'est le pont qui permet de franchir le Gave, de passer d'une rive à une autre. Il est très beau, ce pont, mais il est bombé. Il fait 7% de pente, et dans les normes aujourd'hui, il faudrait que ça fasse seulement 4%. Alors à l'œil nu, on s'en rend pas compte, mais quand on est en fauteuil, vraiment, on s'en rend compte. Et c'est vraiment ça aussi, l'inclusion. On sait, à Lourdes, les personnes malades sont rarement seules. Elles sont accompagnées par des hospitaliers, par la famille, par des amis, par des bénévoles. Donc elles sont poussées. Mais il faut aussi qu'elles puissent aussi déambuler seules dans le sanctuaire. Et donc, baisser de 3% un pont, c'est des millions d'euros. Et donc forcément, il y a des enveloppes aussi pour cela. Et donc on vient demander de l'aide. Elle est venue aussi voir tous ces partenariats innovants que le sanctuaire souhaite mettre en place, notamment avec des start-up. Aujourd'hui, il y a vraiment de l'ingénierie qui se fait dans l'accessibilité handicap. Je pense notamment à la start-up EasyMob, qui permet, avec des applications pour des personnes malvoyantes, de pouvoir se déplacer, avec des start-up qui permettent aussi d'apporter du matériel médical directement dans les chambres d'hôtel, etc. Il faut aussi être ouvert à tout cela. Et donc, c'était un moyen en tout cas de la sensibiliser, notamment sur ces sujets.
Autre question qui a été évoquée, c'est le transport pour se rendre à Lourdes. Là aussi, il y a des enjeux importants.
Ah oui, c'est même fondamental. Le transport est l'enjeu fondamental, parce qu'on peut avoir toutes les normes accessibilité au carré, j'ai envie de dire, dans le sanctuaire. Eh bien, il faut quand même venir jusque dans le sud de la France, et surtout quand on vient des quatre coins de France, mais aussi de l'Europe et même de l'étranger, de l'international. Vraiment, le transport est un enjeu. C'est un enjeu, on le sait, l'aéroport fonctionne, les trains sont pleins, mais derrière, c'est comment arrive-t-on toujours à accompagner et faire venir à Lourdes des personnes à mobilité réduite. Et aujourd'hui, ce n'est pas assez satisfaisant. On pourrait tant faire. Et donc, c'est important, en tout cas, d'avoir ces échanges avec elles. On a notamment pu échanger ce lien Paris-Orly, avec tous ces aéroports qui, mine de rien, sont près de nous. On a Pau, on a Toulouse, on a Biarritz. Donc, il faut arriver à être astucieux et trouver les lignes d'avion qui qu'il convienne, mais aussi ce besoin, cette nécessité de se reconnecter avec le hub international, avec Roissy-Charles de Gaulle. Ça a été aussi l'occasion d'évoquer aussi, proche de nous, le dernier kilomètre. Voilà, parce que le dernier kilomètre, ça veut dire que quand on a voyagé pendant une journée complète, quand on arrive à Lourdes, et bien quand on descend du train ou de l'avion et qu'on est en fauteuil roulant, et bien il y a encore du temps qui va se passer. Il y a ce besoin de fluidifier. C'est l'occasion aussi de saluer le travail remarquable que font les hospitaliers de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes qui, avec des cars spéciaux, des cars PMR, comme on l'appelle, vont faire des navettes entre l'aéroport et la gare quotidiennement. Et donc aujourd'hui, bah, c'est comment fluidifier l'accès jusqu'au sanctuaire et jusqu'aux accueils de malades. Et on sait que bah, l'urbanisme de la ville est un peu difficile. Et puis quand il y a un livreur qui livre et qui est en warning, et bien on attend. Et donc c'est surtout pour limiter ce temps d'attente, pour que voilà, ces derniers kilomètres ne soient pas aussi longs que, oui, que le voyage à venir.
Pour faciliter l'accueil également des pèlerins, le sanctuaire va lancer une plateforme de réservation pour des hébergements en partenariat avec les hôtels lourdais.
Oui, et Nathalie Delattre, la ministre déléguée au tourisme, a beaucoup été intéressée là-dessus, puisque le 3 mars, donc c'est la semaine prochaine, donc le sanctuaire lance une plateforme de réservation. Ça veut dire que à partir du 3 mars, on pourra, depuis le site internet du sanctuaire, réserver un hôtel avec les hôtels partenaires du sanctuaire, pour ceux qui ont l'habitude de voyager et qui nous écoutent et qui utilisent des plateformes telles que Booking, etc., ben c'est le même fonctionnement. Aujourd'hui, c'est 85% des chambres de Lourdes qui sont intégrées à la plateforme. Et donc, avec cette saison qui arrive, ça sera voilà, l'occasion de pouvoir réserver un hôtel. Ça paraît très technique, mais derrière l'enjeu, là aussi, il est important, c'est de pouvoir rester en contact avec les pèlerins qui viennent à Lourdes de manière individuelle, qui ne sont pas accompagnés, qui ne sont pas en groupe. Et pour le sanctuaire, de les accompagner dans leur pèlerinage, donc leur renvoyer des informations pour ben, les guider leur, dans le grand programme des célébrations du sanctuaire, les aider à faire des choix en fonction de ce qui leur ressemble, en fonction de leurs attentes pour vraiment vivre un pèlerinage sur mesure, j'ai envie de dire.
Voilà, ça c'est vraiment une nouveauté, lancement la semaine prochaine, 1er mars.
Oui, ça sera le 3 mars, lundi, donc voilà, ça sera l'occasion. Il faut le faire savoir, voilà, un beau service nouveau aussi, et comme vous l'avez dit, voilà, en lien avec les hôtels de Lourdes, vous savez, c'est aussi ça, ces rencontres ministérielles, c'est aussi se dire que bah, le sanctuaire, ce n'est pas un îlot qui est seul, il évolue dans une ville, dans un tissu voilà, économique, avec des partenaires, des socioprofessionnels, etc. Bah, c'est tous ensemble voilà, qu'il faut travailler à avancer, et pour aussi dépasser tous ces enjeux.
Voilà, et accueillir les pèlerins dans de bonnes conditions. Autre sujet qui a été abordé, c'est ce classement de la procession mariale au patrimoine immatériel. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, alors là aussi, grand intérêt de la part de la ministre. En fait, depuis plusieurs mois, nous travaillons au dépôt de candidature de la procession mariale au patrimoine culturel immatériel de la France. Voilà, comment faire reconnaître sur le plan du patrimoine immatériel cette pratique de la procession qui est tellement chère, et aujourd'hui, alors qu'on célèbre la 8e apparition de Marie à Bernadette, celle qui nous a demandé de venir ici en procession, de bâtir une chapelle, de venir en procession, eh bien cet héritage, il faut qu'il demeure. Alors évidemment, c'est un patrimoine qui est vivant, qui est actuel, puisque voilà, les processions se dérouleront chaque jour. Et il est important aussi de sauvegarder ce patrimoine. Donc une candidature, on l'espère, soit on la dépose en avril, si on y arrive, soit on la dépose en juin. En tout cas, nous travaillons avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, voilà, avec des anthropologues, des ethnologues aussi qui nous aident à travailler cette candidature. Un grand intérêt pour la ministre, puisqu'elle voit déjà l'étape d'après qui pourrait être l'UNESCO. Et c'est vrai, ça pourrait être très beau.
Nathalie Delattre, donc ministre déléguée chargée du tourisme, était donc ce week-end en déplacement dans les Hautes-Pyrénées. Je vous propose de l'écouter puisqu'elle a visité le sanctuaire de Lourdes. Elle s'est également rendue au château fort de Lourdes, et c'est à cette occasion que Philippe Subercaz l'a rencontrée, et elle nous explique pourquoi elle a souhaité venir à Lourdes.
Eh bien, écoutez, c'est vrai que moi, j'ai été invitée ici à venir par Maryse Carrère, hein, qui est sénatrice et qui était la présidente de mon groupe quand j'étais sénatrice. Et donc, il m'était effectivement impossible de penser venir dans ce département sans venir à Lourdes dans le cadre d'un sujet qui est important, qui est le tourisme cultuel. J'ai annoncé deux chiffres cette année pour le tourisme, deux chiffres records pour 2024, qui sont 100 millions de visiteurs en France. Donc nous sommes le pays le plus visité au monde et une progression de 12% de 71 milliards de recettes sur l'année 2024. Donc il est vrai que la filière tourisme représente 8% de notre richesse nationale, hein, de notre PIB, 200 milliards de chiffre d'affaires et 2 millions d'emplois directs et indirects. Le tourisme cultuel, c'est 11 milliards de recettes sur l'année. Et Lourdes, évidemment, dans cette recette, cette richesse nationale, représente une part conséquente. Donc, il est vrai qu'il était important pour moi de regarder quelles étaient les installations. Et puis, sur notre stratégie 2030 du tourisme, qui se décline sur la durabilité, l'inclusivité et l'innovation, le volet accessibilité, et nous en avons énormément parlé ce matin, m'intéressait, accessibilité des personnes différentes, des personnes qui ont des handicaps différents. Et là, ce sanctuaire reçoit notamment des personnes qui ont des handicaps lourds et qui peuvent arriver sur civière. Eh bien, je voulais regarder quels étaient les différents systèmes qui ont été imaginés pour pouvoir accueillir ce public, parce que je souhaite en 2030 que la France deviennent le premier pays au monde accessible. Nous avons aujourd'hui en France 12 millions de personnes handicapées, de handicap visible ou non visible, et l'OMS en compte au niveau mondial une personne sur 6. Donc c'est vrai que pour beaucoup, ça peut être des contraintes, mais en fait pour nous, c'est un levier de croissance et c'est surtout une promesse française, c'est celle de rendre égaux l'ensemble de nos Français, et les personnes différentes doivent pouvoir avoir accès à l'ensemble des sites touristiques. Nous avons plusieurs labels et politiques de labels. Nous avons parlé Destination pour tous, mais on a aussi parlé du label UNESCO. On sait très bien que ces labels sont vraiment importants dans la politique du gouvernement et dans celle de faire progresser l'ensemble des sites. Donc nous avons aussi le label Tourisme et Handicap. Tous ces labels permettent de garantir une qualité l'assurance effectivement que ces sites ou ces parcours sont bien à destination de tous. Nous avons parlé aussi ce matin du label UNESCO. C'est aussi une chance quand on peut labelliser un site UNESCO. On sait qu'on va avoir un effet multiplicateur sur le nombre de touristes qui vont venir. Ce sont des labels qui permettent effectivement de rassurer les touristes et même qui attisent la curiosité des touristes quand il s'agit des labels UNESCO. Mais nos labels sont là pour garantir l'excellence et en tout cas la qualité.
L'État a aidé particulièrement la ville de Lourdes avec un plan à venir. Pourquoi Lourdes a été aidée à telle puissance par l'État, sachant que bon, mais après le Covid, tous les lieux touristiques ont souffert également. Pourquoi particulièrement Lourdes?
Écoutez, je pense que quand on regarde l'ensemble de la carte et qu'on regarde les aides qui ont été données en France, beaucoup de sites et beaucoup d'établissements de la filière touristique, en tout cas, ont été aidés. Lourdes, parce que, je vous le rappelle, vous êtes quand même la deuxième ville hôtelière de France. Vous avez 27 000 lits. Donc, quand on regarde la carte de France, une ville majeure dans notre offre touristique et notre capacité hôtelière qu'il faut accompagner dans le plan stratégique de la France. Nous sommes leaders européens du plein air et nous avons une faiblesse sur l'hôtellerie qu'il nous faut aujourd'hui inciter dans la rénovation énergétique notamment, mais il faut aussi construire plus d'hôtels. Et c'est vrai que nous devons conforter des villes qui sont déjà bien plantés en hôtellerie et qui vont constituer, et qui constituent déjà un fleuron pour nous et un major dans la filière. Donc c'est aussi ce qui a motivé l'aide sur Lourdes dans le plan Lourdes 2030.
En parlant d'hôtellerie, on l'a évoqué tout à l'heure, le secteur de l'économie touristique, eux, vous pourrez parler beaucoup des saisonniers. Il faut des saisonniers pour les hôtels. Est-ce que vous avez des annonces pour eux sur ce sujet, sur comment faire pour attirer plus de saisonniers dans la région?
Alors, moi, j'ai lancé la Semaine des métiers du tourisme, qui est une édition qui verra, qui va se déployer du 17 au 23 mars, qui est en fait de pouvoir toucher un jeune public de 15-25 ans pour leur faire découvrir les métiers du tourisme ainsi que les demandeurs d'emploi, pour créer des vocations sur ce secteur du tourisme, puisque nous manquons, par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, de 63 000 emplois, enfin, en tout cas, salariés, qui pourraient être employés immédiatement. Les contrats de travail, sur les conditions effectivement d'exercice, on voit bien, on l'a vu dernièrement, puisqu'il a fallu que l'on regarde de plus près le statut des auto-entrepreneurs. On en trouve beaucoup dans la profession. Le CDDU qui est un emploi, qui est un contrat court, et les saisonniers. On voit bien qu'on est arrivé à un bout de l'exercice, qui fait que au moment où nous souhaitons développer le tourisme sur l'année, il nous faut regarder comment on peut faire évoluer les contrats de travail. Alors oui, il y a des gens qui veulent toujours travailler en saisonnalité, mais d'autres qui souhaitent s'implanter et pouvoir travailler maintenant tout au long de l'année. Je rappelle aussi qu'il faut que les employeurs soient eux aussi ouverts tout au long de l'année pour que nous puissions évoluer sur ce tourisme à 4 saisons, comme on le dit, ou annuel. Donc ce sont des réflexions que j'ai engagées avec la ministre du Travail pour que nous puissions regarder ces évolutions, et ils seront bien évidemment associés, que ce soit l'UMI, GHR ou les autres fédérations concernées.
Ça veut dire qu'il y aura un nouveau type de contrat en fait, spécifiquement pour les saisonniers ?
Non, on va regarder comment on peut faire évoluer celui-ci, qui peut peut-être s'étendre un peu plus dans le temps, puisqu'il est limité, c'est normal, c'est un contrat saisonnier, ou regarder effectivement ce que l'on peut adapter au mieux par rapport à la situation et à la demande un peu particulière de transition entre ce tourisme saisonnier et cette volonté aujourd'hui de pouvoir tendre sur un tourisme toute l'année. Donc je pense qu'il nous faudra avoir des adaptations jusqu'à temps que l'on passe sur des CDI, quand on aura retrouvé une activité annuelle.
Alors, les restaurants, les hôtels ont du mal à recruter des gens, que ce soit en saison ou pas. Après le Covid, beaucoup de gens ont changé de direction parce que c'est dur de travailler le soir, c'est dur de travailler les week-ends. Et on voit la difficulté aujourd'hui de recrutement. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour essayer d'aider aussi et de révaloriser les salaires dans ces catégories de socioprofessionnels?
Alors effectivement, je crois que c'est une approche un peu différente du travail aujourd'hui. Et l'hôtellerie arrive aussi à s'adapter, c'est-à-dire que beaucoup ont compris qu'ouvrir 7 jours sur 7 était difficile, et donc revoient leur modèle économique pour faire en sorte de pouvoir recruter plus facilement et de pouvoir également revaloriser les salaires. Nous les accompagnons dans la politique des bas salaires. Et c'est vrai que l'État ne peut pas tout faire, mais l'État accompagne le plus possible la filière, et nous travaillons étroitement avec la filière pour arriver à trouver des solutions.
C'est possible, j'aimerais aborder un autre élément que vous avez apporté tout à l'heure, c'était sur un nouveau projet de loi que vous annonciez sur la simplification. Qu'est-ce qu'il comportera? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il comporte, et quels sont ses objectifs?
Alors en fait, on voit bien que nous avons une stratégie ambitieuse avec des acteurs qui sont très impliqués. Et si aujourd'hui nous sommes une filière qui génère de la richesse nationale, c'est parce que nous avons des acteurs privés très impliqués. Je les en remercie. Il y a effectivement des freins, on vient d'en parler, sur les ressources humaines. Nous avons aussi un frein sur la capitalisation, c'est-à-dire le fléchage de l'investissement, puisque pour pouvoir rénover pour pouvoir investir dans de nouveaux équipements, il faut pouvoir compter sur des prêts de la Caisse des dépôts, de la BPI. Cela veut dire qu'il faut qu'on retrouve des garanties. Cette garantie, elle pourrait être celle des épargnants français qui sont souvent investis dans des fonds étrangers et qui nous reviennent sous forme de fonds d'investissement. Donc je pense que nous sommes en train de travailler sur un fléchage du soutien de l'économie et d'un des piliers majeurs de l'économie française, un pilier qui ne comporte pas vraiment de risque, qui est le secteur touristique. Donc il y a cette capitalisation sur laquelle nous travaillons. Et le troisième frein, c'est la norme aujourd'hui. C'est effectivement une demande très forte de toutes les professions. Je crois que quand vous allez voir chaque filière, ils ont cette demande de simplification, de non-transposition des règles européennes. Et donc c'est ce chantier que nous menons avec Véronique Louwagie à Bercy, ma collègue au commerce petites entreprises. Et nous sommes en train de recenser dans un projet de loi qui toucherait le code du tourisme et peut-être d'autres codes, mais je vais déjà m'attaquer au code qui m'incombe, de pouvoir simplifier quelques normes pour le plein air, pour l'hôtellerie, restauration ou d'autres. Mais ça, je vous le dévoilerai en temps venu. Nous commençons à travailler avec l'ensemble des fédérations sur ce sujet.
Mais dans l'esprit, en fait, le but, ce serait que des projets puissent aller plus vite, par exemple.
Bien sûr, qu'ils puissent aller plus vite, que des papiers soient déjà pré-renseignés, parce que l'administration française a déjà énormément d'indications. Et donc, c'est de pouvoir être dans un temps plus entrepreneurial qu'administratif, se rapprocher du temps du décideur et de l'opérationnalité, effectivement. Donc, le temps, c'est de l'argent. Comme vous l'avez dit, ça nous permettra d'avoir un nouveau levier de croissance. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà, donc au micro de Philippe Subercaz, c'était Nathalie Delattre, la ministre déléguée chargée du tourisme, qui a effectué ce week-end un déplacement dans les Hautes-Pyrénées. Elle était samedi au sanctuaire de Lourdes. Et c'est vrai que dans le sanctuaire de Lourdes, a une vision Lourdes 2030. C'est un plan ambitieux.
Oui, un plan ambitieux. On le voit, la ministre le dit. Il faut se projeter sur plusieurs années. Lourdes 2030, bon, voilà, c'est une vision pour vraiment regarder les périmètres. Le sanctuaire a besoin en tout cas de se développer, d'abord pour mieux accueillir, pour mieux transmettre le message de l'autre, pour mieux accueillir et pour célébrer et prier, pour mieux accueillir et puis pour servir en particulier les plus vulnérables et puis mieux accueillir dans une perspective Laudato Si de développement durable. Le mieux accueillir, ça c'est vraiment la mission intrinsèque du sanctuaire, et donc se projeter en 2030, comment on accueillera en 2030. Alors 2030, c'est dans pas si longtemps que ça, il reste 5 ans, mais c'est un grand programme d'aménagement quelque part urbain à l'intérieur du sanctuaire qui va concerner les lieux de culte, les portes du sanctuaire, l'accueil physique des pèlerins lorsqu'ils entrent, les piscines du sanctuaire, etc. Il y a 18 périmètres, le patrimoine naturel en fait partie. C'est un vaste programme qui, si on faisait tout en une fois, il faudrait 115 millions d'euros pour arriver à tout faire. Vous savez, c'est à l'échelle du sanctuaire qui fait plus de 50 hectares. Et donc, ce plan de financement, cette levée de fonds qui est en cours est importante pour parvenir à transformer également le sanctuaire en s'adaptant au mieux aux demandes aussi des pèlerins. Donc, on l'a dit, on l'a entendu, il y a le plan Avenir Lourdes qui est un plan de sauvetage qu'avait annoncé Emmanuel Macron le 16 juillet 2021 lorsqu'il avait visité le sanctuaire, et là on était dans une période post-Covid, donc un plan pour valoriser la destination de Lourdes et puis un plan aussi du sanctuaire à l'intérieur. Donc en fait cet exercice de visite ministérielle, c'est aussi l'occasion de croiser, d'affiner les visions et puis aussi faire converger les aides, ça on l'espère.
Voilà pour cette visite de Nathalie Delattre, donc ministre déléguée chargée du tourisme, qui était ce week-end dans dans les Hautes-Pyrénées. Donc samedi, elle était à Lourdes. On évoque maintenant la santé du pape et à Lourdes, on prie pour lui.
Ben oui, évidemment, on est toujours en train de regarder les nouvelles. Donc là, on voit que le pape a passé une bonne nuit, mais voilà, il reste toujours dans un état critique. Alors évidemment, ben tous ici, hein, les pèlerins disent leur inquiétude pour la santé du pape. Et puis depuis plusieurs jours hein, maintenant, eh bien nous portons la santé du Saint-Père dans nos prières à l'occasion des chapelets et de chaque messe qui sont célébrées par les chapelains du sanctuaire. Alors voilà des prières qui résonnent particulièrement en ce jour où nous célébrons aussi les apparitions. Hein, le 11 février, on a fêté l'anniversaire, c'est la fête Notre-Dame de Lourdes, c'est l'anniversaire de la première apparition de Marie à Bernadette. Et puis donc il y a toute cette quinzaine, elle est apparue 18 fois, mais vraiment les 15, enfin les premières apparitions sont plutôt dans cette quinzaine de février. Hier, ça c'était au cours de la 7e apparition, entourée de 150 personnes, Bernadette se rend à la grotte et l'apparition lui révèle un secret rien que pour elle. Aujourd'hui, c'est la 8e apparition et on se souvient du message de la dame qui disait pénitence, 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 3 fois. Priez Dieu pour les pécheurs, allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs. Voilà une apparition bien mystérieuse et vraiment porteuse de sens. Et puis demain, ça sera le 25 février, c'est la 9e apparition, c'est le jour où Bernadette gratte sur les indications de la Sainte Vierge et découvre la source. Donc on célèbre les apparitions, on prie pour le pape. Vous savez, c'est ça hein, la mission de Lourdes, hein, c'est un poumon de prière pour le monde et pour tous.
Voilà, et si on souhaite écouter les récits hein, des apparitions, un podcast est disponible sur les plateformes.
Oui, exactement. Donc sur les plateformes d'écoute, celles que vous utilisez, Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Voilà, on peut revenir chaque jour. Voilà, écouter le récit des apparitions. Elles sont comptées par Jean-Marcel Rossini, un chapelain du sanctuaire qui a une voix super pour raconter les histoires. Voilà, c'est une occasion originale en tout cas de revivre ce message de Lourdes à travers les apparitions.
Et c'est là-dessus qu'on ferme cette chronique. Un grand merci David Turchala. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication et des ressources pour le sanctuaire de Lourdes. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Toujours pas de vacances?
Oh ben, j'aimerais bien un petit peu. J'essaie de voir sur la fin de semaine.
Moi, je vous avez ça. Réfléchi.
C'est pas trop long. Mais à la semaine prochaine, je serai là en tout cas.
Merci David. Très bonne journée à Lourdes.